VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir et bienvenue à l'édition du 27 août 2015. À la une ce soir.
À la une, Morgane Guiriec. Tout d'abord, en Somalie, un attentat a fait au moins plutôt une série d'affrontements. Fait au moins une trentaine de morts dans le sud-ouest du pays.
République centrafricaine à quelques semaines du premier scrutin devant aboutir à la fin de la transition. Le vice-président de l'Autorité nationale des élections offre sa démission.
J'ai adossé ma lettre de démission d'une note qui s'est penchée sur les principales interrogations par rapport au processus électoral.
Au Tchad, le procès d'une dizaine de militants présumés de Boko Haram se poursuit.
Les gens sont toujours sur le Kevin et à la méfiance, ils règnent toujours à l'examen.
Mekondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Le drame des migrants en Europe au cœur d'un sommet à Vienne, alors que des dizaines de cadavres, vraisemblablement de migrants, viennent d'être découverts près de la capitale autrichienne.
Visite du président Barack Obama en Louisiane pour marquer le 10e anniversaire de l'ouragan Katrina.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
D'intenses combats dans le sud-ouest de la Somalie ont coûté la vie à au moins une trentaine de combattants après une embuscade tendue par les islamistes Shebab contre un convoi de forces pro-gouvernementales. Jean-Roger Bian.
Le convoi est tombé dans une embuscade près du village de Tulo Barwako, dans la région de Gedo, frontalière du Kenya et de l'Éthiopie. Un responsable local a donné un bilan de 32 islamistes et 11 soldats tués, tandis que les Shebab qui ont revendiqué l'opération n'ont fait état que de 19 tués, tous dans les rangs des forces pro-gouvernementales. Un chef traditionnel local, Abdoulaye Halan, a lui indiqué à l'AFP que les combats avaient fait une trentaine de morts au total. Confronté à la puissance de feu supérieure de l'AMISOM, la force de l'Union africaine qui épaule les forces pro-gouvernementales en Somalie, les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et depuis de l'ensemble des localités d'importance qu'ils tenaient. Ils contrôlent néanmoins toujours de larges zones rurales du sud du pays.
En Centrafrique, le vice-président de l'Autorité nationale des élections, Godefroy Moka-Manédé, a démissionné pour des raisons de santé. La RCA est engagée, rappelons-le, dans un processus électoral avec le premier tour du scrutin présidentiel prévu le 18 octobre prochain. Monsieur Moka-Manédé, joint par Félix Yepesi-Zembro.
J'ai adossé ma lettre de démission d'une note qui s'est penchée sur les principales interrogations par rapport au processus électoral. Nous avons travaillé à l'ANE de manière totalement collégiale. Tout un chacun a des compétences avérées dans le domaine. Je crois que nous avons l'appui d'un grand groupe d'experts venus de, je vais dire, de quatre coins du monde. Je pense que si les points, les principales interrogations quelques contenus dans la note qui accompagnait ma lettre de démission venaient à être levés, nous pensons que le processus peut être mené à terme sans problème.
Godefroy Moka-Manédé, ancien vice-président de l'Autorité nationale des élections en RCA.
Les avocats de la République démocratique du Congo ont demandé aujourd'hui l'acquittement de 5 policiers jugés en appel pour l'assassinat en juin 2010 du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, Claire Morin-Gibourg.
Au dernier jour des plaidoiries, les déclarations de Maître John Omeata, avocat de la République, ont provoqué l'indignation du ministère public et de la défense des parties civiles. La RDC demande à la haute cour militaire d'acquitter tous les prévenus poursuivis dans ce prétendu assassinat, a-t-il déclaré. De son côté, la défense avait requis la prison à perpétuité pour les 5 prévenus. Fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, militant connu et respecté, Chebeya était devenu très critique vis-à-vis du pouvoir du président Joseph Kabila à la tête de la RDC depuis 2001. Il a été retrouvé mort le 2 juin 2010, après avoir été convoqué au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi, qui était alors chef de la police. Le procès en appel doit se poursuivre lundi avec les répliques et les contre-répliques de toutes les parties.
Élection guinéenne, le président Alpha Condé souhaite que l'accord entre le pouvoir et l'opposition portant sur l'organisation des scrutins présidentiels et locaux soit appliqué à la lettre. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'une conférence de presse à Conakry. Conclu le 21 août, cet accord permet à l'opposition guinéenne de remplacer deux de ses membres à la commission électorale, des membres décédés. Alpha Condé, candidat à sa réélection, a refusé par ailleurs de commenter le retour avorté en Guinée de Moussa Dadis Camara. L'avion de l'ex-chef de la junte guinéenne en exil au Burkina Faso depuis 2010 a été détourné vers le Ghana après que la Côte d'Ivoire eut refusé qu'il fasse escale sur son sol. La Côte d'Ivoire est un pays souverain, s'est-il contenté de déclarer.
Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement a listé 16 réserves à l'accord signé mercredi par le président Salva Kiir. Selon un document officiel obtenu par l'AFP, il émet des réticences concernant les mécanismes de partage du pouvoir. Djouba estime notamment que le poste de premier vice-président attribué aux insurgés est une prime à la rébellion. Il est également prévu que le président consulte son premier vice-président, qui sera vraisemblablement Riek Machar, le chef de la rébellion, en vue de décisions collégiales. C'est dans ce contexte que le président Salva Kiir dénonce ce qu'il qualifie de paix imposée.
Quelques 4,5 millions d'Éthiopiens ont besoin d'aide alimentaire cette année. Et d'après une étude conjointe réalisée par le gouvernement et l'ONU, c'est 55% de plus que prévu en raison des faibles précipitations durant la petite saison des pluies et du phénomène climatique El Niño qui pourrait d'ailleurs aggraver la situation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau drame de l'immigration en Europe. Entre 20 et 50 cadavres ont été découverts dans un camion garé au bord d'une autoroute en Autriche, à quelques kilomètres de Vienne. Le camion immatriculé en Hongrie aurait été abandonné. Cette découverte intervient alors que se déroule à Vienne justement un sommet dont l'agenda est dominé par la crise des migrants. Michel Joseph.
À quelques kilomètres de cette découverte macabre, les dirigeants des Balkans de l'Ouest se réunissaient aujourd'hui. La crise des migrants a dominé les débats. Nous sommes tous bouleversés par ces terribles nouvelles selon lesquelles jusqu'à 50 personnes ont trouvé la mort, alors que ces gens venaient chercher la sécurité, a déclaré Mme Merkel à Vienne, où elle participe au sommet sur les Balkans de l'Ouest. C'est un avertissement pour que l'on se mette au travail pour résoudre ce problème et faire preuve de solidarité, a ajouté la chancelière. La Serbie et la Macédoine ont appelé jeudi l'UE à agir pour régler la crise. Les deux pays sont parmi les plus importants points de passage des dizaines de milliers de migrants qui tentent de rejoindre l'Union européenne à travers la route des Balkans de l'Ouest.
Ici aux États-Unis, 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina qui jeta une lumière crue sur les carences du gouvernement fédéral américain, le président Barack Obama et sur place, en Louisiane, pour saluer le renouveau de la Nouvelle-Orléans. Tatiana Mosso.
Lorsque Katrina, ouragan de catégorie 5, a frappé la côte sud des États-Unis le 29 août 2005, la Nouvelle-Orléans, en partie construite sous le niveau de la mer, a sombré dans le chaos. Plus de 1800 personnes sont mortes, la plupart dans la ville. À la suite d'une rupture de digue, des quartiers entiers ont été inondés. La situation avait été particulièrement dramatique dans le quartier le plus pauvre de la ville, construit dans une cuvette et peuplé essentiellement de Noirs. Le président Barack Obama doit se rendre dans ces quartiers. Katrina fut, selon l'exécutif, la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire américaine. 650 milliards de dollars de dégâts pour la seule ville de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, le président George W. Bush avait décidé de survoler la Louisiane sans se poser. La photo le montrant en train de contempler la zone dévastée à travers le hublot de l'avion présidentiel Air Force One est rapidement devenu le symbole d'une administration déconnectée de la réalité.
Politique américaine, Donald Trump creuse l'écart dans le camp républicain. Selon un nouveau sondage de l'université Quinnipiac, le magnat de l'immobilier, connu pour son anticonformisme et ses déclarations controversées, reçoit l'appui de 28% des électeurs de son parti à l'échelle nationale. Il dépasse son challenger le plus proche, l'ancien neurochirurgien Ben Carson, de 15 points. L'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, fils et frère de deux anciens présidents des États-Unis, peine à améliorer son score. Chez les démocrates, l'ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame Hillary Clinton reste en tête avec 45%, mais cela représente une baisse de 10% par rapport au mois dernier. Vient ensuite le sénateur Bernie Sanders avec 22% et le vice-président Joe Biden, 18%, qui ne s'est pas encore officiellement porté candidat à la présidentielle de 2016.
Quatre civils, dont deux enfants, ont été tués aujourd'hui lors des heurts opposant les rebelles kurdes aux forces de l'ordre dans le sud-est de la Turquie. L'AFP, qui cite une source sécurité locale, signale aussi que trois soldats et quatre autres civils ont été blessés dans la même localité dans des accrochages suite à l'attaque d'une garnison militaire par les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne.
Le gouvernement pakistanais exige de l'Afghanistan la protection de son personnel diplomatique et de ses locaux à Kaboul.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Eric Manirakiza.
La chute des marchés financiers en Chine se répercute sur la RDC pour 2015. Selon un communiqué du ministère congolais des Finances, le taux de croissance initialement prévu de 9,2% passe maintenant à 8,4%. Partenaire commercial privilégié de la RDC, la Chine a réduit ses prévisions d'importation de cuivre et de cobalt. Ceci a provoqué une baisse du prix du cuivre au plus bas depuis 6 ans. Par contre, le Nigeria tire profit des capitaux chinois. Le groupe Dangote a signé hier un accord portant sur 3,8 milliards d'euros avec le groupe chinois de construction Sinoma International Engineering pour la construction de cimenterie sur le continent africain. Le projet devrait permettre d'augmenter la capacité de production du cimentier nigérian de 25 millions de tonnes réparties entre 11 pays africains ainsi qu'au Népal, a affirmé Dangote dans un communiqué. Faire des affaires en Afrique devient plus risqué, a dévoilé l'enquête de PricewaterhouseCoopers qui mène des études à risque sur le continent. Le rapport concerne 27 des 54 pays sur le continent. Avec un taux de risque de 29%, l'Afrique surpasse le reste du monde, où ce taux est estimé à 17%. Selon PricewaterhouseCoopers, c'est une occasion d'introduire en Afrique des programmes de gestion du risque et de la résilience organisationnelle.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Eric Manirakiza.
Les sports avec Bagassi Koura. On commence par l'Afro Basket 2015. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin. Bonsoir à tous. En match de classement, l'Ouganda a battu le Zimbabwe 72-64. Et lors du premier match des quarts de finale, le Nigeria a écrasé le Gabon 88-64. L'Égypte affronte l'Angola. Le Sénégal va rencontrer l'Algérie. Et tard, le Mali aura fort à faire avec le pays organisateur, la Tunisie.
En football, parlons des éléphants.
Oui, on connaît les 23 éléphants retenus par le nouvel entraîneur français, Michel Duchuyer. Serge Aurier du Paris Saint-Germain est de retour après avoir boudé la sélection lors de la première journée. Pour sa part, Yaya Touré de Manchester City, déjà absent contre le Gabon en juin dernier, est encore forfait. Le capitaine des éléphants, vainqueur de la CAN 2015, aurait décidé de prendre un peu de recul pour l'instant. En revanche, le Bordelais Thomas Touré fera ses débuts avec la Côte d'Ivoire. Il avait déjà été appelé par l'ex-sélectionneur Hervé Rena, mais avait décliné l'offre. Michel Duchuyer a également retenu 3 locaux, notamment le défenseur Chérif Jumeau, issu de l'Athletic Adjamé, club de Ligue 2 du championnat ivoirien.
En football toujours, Lionel Messi, roi d'Europe.
Oui, Lionel Messi a remporté ce jeudi le trophée du meilleur joueur UEFA de la saison 2014-2015 en devançant Cristiano Ronaldo et Luis Suarez sur le podium. Il faut dire que les trois joueurs jouent dans le championnat espagnol. Et l'attaquant argentin qui a remporté le triplé championnat Coupe d'Espagne, Ligue des champions avec le Barça, enlève cette distinction individuelle pour la deuxième fois après 2010 et 2011 et succède Chérubin à Cristiano Ronaldo au palmarès.
Et le Jamaïcain Usain Bolt, lui, est roi du 200 mètres.
Oui, le Jamaïcain a de nouveau fait le plus grand bien à l'athlétisme en dominant sur le 200 mètres des mondiaux de Pékin. L'Américain américain Justin Gatlin, qui avait déjà été suspendu à deux reprises pour dopage. Bolt a pris ses distances avec Gatlin dans les 50 derniers mètres pour gagner en 19 secondes 55 centièmes. C'est le 10e chrono de tous les temps sur la distance, contre 19 secondes 74 centièmes pour Gatlin. Le Sud-Africain Anaso Jobodwana, 19 secondes 87, complète sur le podium.
C'est-à-dire que Usain Bolt est l'athlète le plus médaillé et aussi le plus titré de l'histoire des mondiaux d'athlétisme. Merci Bagassi Koura.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guériec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Burundi.
Où un nouveau gouvernement est en place pour les 5 années à venir. Mais le président Pierre Nkurunziza, qui a prêté serment pour un 3e mandat, fait l'objet de contestations depuis avril dernier. Ses opposants affirment que la constitution burundaise et les accords d'Arusha ont été violés. En revanche, d'autres groupes, comme la Coalition pour une opposition participative, soutiennent le nouveau gouvernement. Correspondance de Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
L'opposition burundaise, les pays de la région, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies ont toujours demandé que les élections se déroulent d'une façon inclusive, transparente et pacifique. Mais malgré les appels répétés des uns et des autres, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat issus des dernières élections sont déjà fonctionnels. Le président de la coalition de 10 partis politiques pour une opposition participative, qui a milité à côté du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, estime que l'entrée de l'ancien rebelle Agathon Rwasa ce gouvernement d'unité est à féliciter Jean de Dieu Mutabazi.
Avec le gouvernement qui vient d'être mis sur pied, nous avons remarqué qu'il n'est composé que par le CNDD-FDD et la coalition des indépendants Amizero y'Abarundi. Alors si la première force politique de l'opposition semble avoir quitté le terrain de l'opposition radicale pour rejoindre l'opposition participative, cela ne peut être qu'une bonne chose. Deuxièmement, le CNDD-FDD et ses alliés doivent avoir dialogué pour trouver un terrain d'entente sur les différends qui semblaient les avoir divisés avant les élections. Cette entente va contribuer à l'apaisement du climat politique et sécuritaire. Et cela ne pourra se faire que pour la satisfaction de la médiation, de la sous-région, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies.
Mais le parti de l'indépendance du prenant Union pour le progrès national, qui a refusé de participer à l'actuel gouvernement, l'heure est grave pour l'avenir politique du pays. Honorable Bonaventure Gassoutoua.
Tout ça, ce sont des institutions issues des élections illégales qui ont violé la constitution, qui ont violé les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Donc ce sont des institutions qui ne sont pas valables. Nous pensons que ce que le président Nkurunziza est en train de faire aujourd'hui, c'est une mascarade, c'est un forcing, c'est un coup d'État contre lui-même, c'est un mépris contre le peuple burundais et contre la communauté internationale qui a crié pour que le dialogue s'installe dans le pays et que s'entende sur la manière dont les élections devraient se tenir. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli, mais ce fait accompli n'est pas acceptable. Nous pensons qu'il finira par comprendre que le dialogue s'impose.
Les organisations de la société civile burundaise estiment quant à elles que le 3e mandat de Pierre Nkurunziza viole le principe de l'alternance démocratique à la tête de l'État et constitue une menace grave à la paix et à la stabilité aussi bien du Burundi que de la sous-région. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Kinshasa va dans le même sens que le chef de la mission des Nations Unies au Congo, qui affirme ne plus être en mesure de continuer à nourrir près de 7000 ex-combattants cantonnés dans des camps pour la démobilisation. Après l'annonce du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, Eddy Sango a recueilli la réaction du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba Tshishimbi.
En ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons dit depuis le début de l'année que nous allions nous attaquer à ce dossier FDLR, non seulement pour les désarmer, mais pour créer les conditions à partir desquelles aucun des FDLR n'a vocation à rester en République démocratique. Nous avons compris depuis un certain temps maintenant. Et si nous voulons réellement la paix, la paix par rapport à notre voisin, le Rwanda, il était essentiel qu'aucun de ces événements ont souvent servi de prétexte pour attaquer la République du Congo sur son flanc est, ne resta pas en République démocratique du Congo. Maintenant, nous nous réjouissons en conséquence. Le PDR portant rapatriement de l'FDLR au Rwanda est une affaire de la MONUSCO. Alors, si aujourd'hui, quelle que soit la raison, par ailleurs, la MONUSCO est déterminée maintenant à rapatrier ces gens, tant mieux, ils n'ont pas vocation à rester au Congo.
Et ces questions de moyens, est-ce que le gouvernement a fait sa part? La MONUSCO dit que ça coûte très cher de nourrir les 2000 combattants. Il ne s'agit pas que des FDLR, il s'agit aussi des autres. Donc si la MONUSCO cesse de les nourrir, que deviendront les autres combattants qui ne sont pas FDLR?
Bien, monsieur, je ne sais pas ce qu'on demande au Congo. Je ne sais pas ce qu'on nous demande. On nous demande de nettoyer l'Est, nettoyer. C'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est groupes armés, et à commencer par les groupes armés étrangères, et que l'autre de l'air ne reste plus d'opérer sur le flanc Est. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de leur acheter des costumes, de leur acheter des voitures, de faire en sorte qu'ils puissent manger trois fois par jour, c'est ça le débat. S'ils n'ont pas à manger au Congo, mais je crois qu'il y a un moyen simple de régler ce problème, c'est d'aller manger chez eux. Ils n'ont qu'à retourner chez eux.
Que deviendront les ex-rebelles qui ne sont pas FDLR? Parce qu'il y a aussi des Congolais qui attendaient dans ce campement des DDRRR ou dans des campements des DDR.
Non, le processus DDR qui concerne les Congolais est en marche. Vous savez que, notamment à notre centre de Kamina et Kitona, dans le Congo central, nous avons organisé donc les conditions d'accueil et petit à petit, effectivement, tous ces gens qui viennent de l'Est ou de l'étranger, en ce qui concerne notamment les ex-combattants du M23, nous les acheminons là-bas et les conditions sont maintenant mieux en mieux organisées.
François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, joint à Kinshasa.
Nous nous rendons maintenant au Tchad pour parler de la suite du procès d'une dizaine de militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram, un procès qui s'est ouvert hier à N'Djamena. Ils avaient été arrêtés à la suite du double attentat suicide du 15 juin qui avait fait 38 morts, dont 3 kamikazes et 101 blessés dans la capitale tchadienne. Timothée Donangmaï a joint Mekondo Soni, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Le procès est diversement apprécié du fait que ce genre de terroristes, on ne les juge pas comme ça. D'autres disent, bon, bien qu'il faut nécessairement passer par la justice. Et donc, c'est diversement apprécié. Mais pour beaucoup de Tchadiens, ils sont toujours touchés par la perte des Tchadiens par rapport à leurs actes.
Et que pense-t-on de l'attitude du chef de ce groupe qui n'exprime aucun remords par rapport aux sanglantes attaques de N'Djamena?
Apparemment, lui, il dit qu'ils font ça, c'est pour soutenir leur religion. Et de quelle religion il fait allusion, on ne sait jamais, puisque eux, ils tuent tout ce qui bouge, tout ce qui est homme, un être humain, j'allais dire. Et donc, ils soutiennent leur religion. Alors, c'est vraiment difficile de les comprendre.
Face à cette attitude, que peut-on attendre de la justice tchadienne?
C'est bon, la fin de la session criminelle est prévue pour le 3 septembre. Peut-être que d'ici là, beaucoup de choses vont se changer. Et nous sommes en train d'attendre le verdict qui sera prononcé par la Cour spéciale criminelle.
Les attaques de Boko Haram en juin et juillet ont secoué la capitale tchadienne et le Tchad entier. Quel est l'état d'esprit des Tchadiens aujourd'hui?
L'état d'esprit, c'est que les Tchadiens sont toujours sur les qui-vive parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on a affaire à des kamikazes qui peuvent d'un moment à l'autre faire des dégâts. Et donc les gens sont toujours sur les qui-vive et à la méfiance qui règne toujours à N'Djamena.
Comment cela affecte-t-il les activités dans la capitale?
Oui, bon, les activités par rapport à ces événements, les autorités communales ont pris des mesures demandant aux gens d'ouvrir les bistrots, les débits de boissons et autres lieux de distraction de 8 heures pour fermer les jours ordinaires à 22 heures et les week-ends à 20 heures. Et malgré ça, certaines personnes, si j'ose le dire, eux, c'est comme s'il n'y a rien, donc ils se promènent. Par contre, dans d'autres coins, les gens vident les rues à temps.
Mais Kondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La littérature béninoise renaît peu à peu. En effet, elle avait sombré, peut-on dire, dans une léthargie depuis plusieurs années et n'offrait plus aucune attraction. Mais depuis quelque temps, de jeunes étudiants et fonctionnaires se sont révélés à travers des créations ayant pour but de redorer le blason de la littérature au Bénin. De Cotonou, voici le reportage de notre correspondante Ginette Fleur à Douindé.
Il y a quelques années encore, la littérature béninoise avait du mal à se détacher de la paternité de Jean-Pierre Olympe Belikenom ou encore Paul Razoumé. Mais de plus en plus, des jeunes nantis d'une imagination à toute épreuve arrivent à plonger leur plume dans les réalités politiques, socio-culturelles du Bénin pour en ressortir ce qu'il y a de vrai, de beau, mais aussi de mauvais, au grand bonheur des amoureux du livre et au grand désarroi de ceux qui pensent que le destin de la littérature béninoise s'est achevé dans une symphonie amère.
Actuellement, la littérature béninoise est en train de se renouveler. Mais alors, véritablement, les voix d'aujourd'hui sont des voix jeunes qui sont en train de manifester une forme de souffrance avec une jeunesse qui n'a pas d'autre choix que de se cultiver et qui le fait vraiment envers et contre tous les poncifs qui se développent autour des jeunes. Toute une frange d'auteurs aujourd'hui qu'on ne peut pas méconnaître. C'est des plumes qui sont nées dans le désespoir.
En vue de donner un coup de pouce à la littérature jeune, une maison d'édition se bat au quotidien à travers un concours national de littérature appelé Plume Dorée. Il dit être un témoin éloquent de la révolution livresque qui s'opère au sein de la jeunesse.
Dans des dispositifs d'ateliers et de résidences d'écriture, nous avons pu impacter réellement 140 jeunes. Nous avons révélé, donc publié 40 jeunes en 8 ans. Tout ça, c'est une contribution concrète, matérielle à l'espace littéraire béninois. Et puis, ce que nous pensons pouvoir apporter, c'est également de détecter les jeunes, de leur dire que c'est possible, de leur donner les outils techniques, les outils didactiques, du matériel, un espace pour pouvoir s'exprimer.
Et pourtant, malgré les efforts qui se font pour rajeunir, la littérature béninoise, Pascal Okritosu, professeur de lettres mais aussi écrivain, parle d'une rupture mal réceptionnée par un lectorat encore pudique.
Je ne peux pas ici maintenant proclamer qu'elle ne vaut rien ou proclamer que ça y est, nous avons le trophée olympique désormais en littérature. Mais il y a qu'il faut constater plutôt ce qui se passe dans le champ littéraire. Il y a que les aînés étaient très classiques. Or, il y a un mouvement qui se fait de plus en plus. Il y a une espèce de rupture que l'on sent déjà à partir de Kwaouzoti. Maintenant, c'est la réception qui peut être nuancée. Certains vous diront que oh, c'est scandaleux, ça ne vaut rien. D'autres y trouveront leur compte.
La littérature béninoise a donc encore de beaux jours devant elle. Et dans quelques années, on inscrira aux côtés des grands noms qui l'ont tant animé, certains qui se battent aujourd'hui au quotidien. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne African Music. Et notre sujet de ce soir que vous avez proposé, est-ce que l'argent attire vraiment les femmes? Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225 58 92 85 40. C'est au plus 225 58 92 85 40. Contactez-nous aussi sur notre page Facebook, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, c'est ce soir. Appelez-nous au 001 202 619 3140. RM Show, ce soir, 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
cette édition touche à sa fin. Joselle Mauricien a dirigé la mise en onde, assisté de Tian Wang à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.